Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 et CNews. Bonjour à vous Marlène Schiappa.
Bonjour.
C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. À mes côtés, pour vous interroger, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Sonia.
Et
bonjour.
Le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Bonjour.
À Marseille, Marlène Schiappa, Emmanuel Macron a fait du en même temps, selon ses opposants, président et en même temps candidat. Dans les intentions de vote, c'est toujours le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen qui tient la corde. Mais tout reste ouvert malgré les apparences. Et à 7 mois du scrutin, ce sont les thèmes régaliens qui s'imposent dans le débat public et politique et qui feront aussi la différence. On va largement en parler dans cette émission. Et à ce sujet, c'est Nicolas Barré qui vous pose la première question.
Alors Marlène Schiappa, plus de 5 ans après les attentats du 13 novembre 2015, le procès s'ouvre cette semaine. A-t-on vraiment retenu les leçons de cette attaque islamiste ?
D'abord, je vais évidemment avoir une pensée pour les victimes. Et également pour leurs proches, je recevrai prochainement Camille Emmanuel, qui est la femme du dessinateur Luce, qui a écrit un livre qui s'appelle Ricochet, dans lequel elle explique à quel point les proches de victimes des attentats sont parfois les oubliés et ont aussi vécu des choses absolument difficiles. Les attentats, c'est toujours un drame national, mais c'est aussi un drame personnel pour les personnes qui sont touchées et qui sont victimes. Et je veux dire que les services de l'État, à l'époque, déjà, ont été présents, ont répondu, et nous avons pris toute la mesure de l'action à mener, notamment avec différentes lois antiterrorisme, encore une avant cet été, la loi CIF, la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, pour renforcer encore davantage notamment la surveillance et pour anticiper et éviter que ce type d'attentat n'arrive. Plusieurs ont été déjoués d'ailleurs depuis 2017.
Dans le même esprit, si je peux me permettre, Valérie Pécresse ce matin, dans le journal du dimanche, dit que 20% des gens qui aujourd'hui pénètrent le territoire de l'Union européenne ne sont pas contrôlés. Est-ce que c'est pas une faille de sécurité majeure quand on sait que plusieurs des responsables des attentats de 2015 avaient eux-mêmes profité d'une filière migratoire
D'abord, pardon, Valérie Pécresse dit beaucoup de choses sur les sujets régaliens. Souvent des choses inexactes ou incomplètes, et parfois elle demande de faire des choses qui en réalité sont déjà faites. Là, en l'occurrence, le gouvernement a déjà pris les mesures pour travailler, pour améliorer le contrôle notamment aux frontières, et y compris notamment améliorer le dispositif Frontex.
Oui, mais il y a donc de personnes qui entrent sur le sol européen et l'Union européenne qui ne sont pas du tout contrôlées. Elle a raison sur ce point.
Non, c'est un chiffre qu'on donne comme ça. En fait, j'imagine que Valérie Pécresse fait référence à l'immigration illégale et irrégulière. On ne peut pas, par définition, avoir un chiffre de cet ordre-là, mais toutes les personnes qui entrent sur le sol ont vocation à être contrôlées, et notamment pour...
Enfin, c'est différent de la réalité.
Bien sûr. Bah, écoutez, la volonté, il y a toujours une différence entre la volonté et la réalité. Et moi, je ne crois jamais aux chiffres 0%, 100%. Je ne vais pas vous dire ici non, 100%, personne, nulle part, jamais. Ce que je vous dis, en revanche, c'est qu'on met tous les moyens et qu'on fait en sorte que ça arrive, notamment pour répondre sur l'actualité brûlante du moment, la question de l'Afghanistan. Les personnes que nous faisons venir d'Afghanistan, elles ont un triple criblage au moment où elles rentrent dans l'avion, ensuite à Abu Dhabi, lorsqu'il y a l'étape avant de prendre l'avion pour la France, et ensuite par la DGSI en arrivant en France. Et c'est grâce à ce criblage et grâce au travail de la DGSI que nous avons pu identifier le fait que certaines personnes avaient été en contact avec les talibans. D'ailleurs, il y a eu une condamnation qui a été prononcée.
Mais quand même, je reviens à ce qu'a dit Valérie Pécresse ce matin dans le journal du dimanche, un quart des personnes fichées pour radicalisation sont des étrangers qu'il faut expulser immédiatement. Là, elle pointe votre impuissance. Là, c'est un chiffre que vous ne contestez pas.
Non, pas du tout. D'abord, Valérie Pécresse omet de souligner le travail qui a été mené par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, justement pour expulser un certain nombre de personnes. Ensuite, je veux être précise sur la manière, sur les choses dont on parle. On ne parle pas des personnes qui sont fichées S. Les personnes qui sont fichées S sont simplement sous surveillance.
Donc, radicalisation islamiste, a-t-elle précisé?
Exactement, mais je veux être précise sur les différents fichiers qui existent et sur les différentes actions. Et ensuite, moi je vais vous dire une chose. Valérie Pécresse dit là la même chose que toutes les personnes qui ne connaissent pas les réalités de terrain. Il faut expulser. Fort bien. Alors comment on fait pour expulser? Et pourquoi il y a des cas dans lesquels nous rencontrons des difficultés? Parce que pour expulser, il faut que vous obteniez de la part du pays d'origine un laissez-passer consulaire.
Mais vous avez parlé de volonté politique. Alors quand on veut obtenir un laissez-passer consulaire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pression avec ces pays, par exemple, sur l'aide au développement, par exemple sur les visas, pour y arriver?
Il y a évidemment un travail qui se met en œuvre, mais il ne suffit pas de dire « il n'y a qu'à, faut qu'on, on devrait ». J'ai entendu ici la semaine dernière sur cette antenne, Valérie Pécresse dit « disant quelque chose comme « il faut dire aux talibans de respecter les droits des femmes ». Valérie Pécresse est beaucoup dans l'incantation et dans le bas « on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça ». Là, en l'occurrence, oui, le travail est mené. Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin ont fait une tournée internationale dans un certain nombre de pays qui sont les pays d'origine pour mener ce travail.
Pour quel résultat concret ?
Pour un résultat très clair, il y a des personnes, il y a des laissez-passer consulaires qui ont été délivrés et des personnes qui ont été expulsées. Mais je veux répondre sur la question de l'aide au développement parce qu'elle me paraît fondamentale. Pardon de le dire, je pense que c'est une fausse bonne idée. À chaque élection présidentielle, on entend dire bah, on n'a qu'à couper l'aide au développement si on veut faire en sorte qu'ils reprennent leurs ressortissants.
Non, mais en tout cas, l'utiliser comme moyen de pression déjà.
Eh bien, ça veut dire menacer de la couper. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe l'aide au développement pour les pays tiers, les pays d'origine, les pays dont les personnes veulent partir ? Eh bien, si on coupe l'aide au développement, ça veut dire que la situation économique et sociale sera encore plus difficile et ils auront encore plus envie de migrer.
Donc, il n'y a pas de solution. Vous actez ce matin.
Non, pas du tout. Non, il y a une solution. Pardon, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de solution. Je dis qu'il y a une solution. La solution, elle est concrète. C'est une solution de diplomatie qui consiste en un travail concret avec les États d'origine qui peuvent nous délivrer des laissez-passer consulaires. C'est le travail minutieux que font nos services pour faire en sorte de pouvoir les expulser.
Mais vous voyez bien que ça bloque.
Si je peux me permettre, il ne suffit pas de dire le mot concret pour être concret. On va dire concret, 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 ça ne rend pas plus concret dans les faits.
Bah,
Si on refuse au moins une pression réelle pour être capable de faire ce moyen de pression, l'aide au développement, est-ce qu'on ne s'empêche pas d'utiliser un moyen qui permettrait véritablement de peser dans les prochaines étapes ?
Pas du tout. Je pense que c'est extrêmement contre-productif et je pense que, pardon, je dis que c'est concret parce que ça l'est et parce que ça a produit des résultats et parce que ces déplacements de Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin, ils ont permis d'obtenir des laissez-passer consulaires et de renvoyer des personnes dans les pays tiers. Je n'ai pas les chiffres ici, donc je ne veux pas vous donner de mauvais chiffres, mais je peux vous les donner à la prochaine pause. J'irai les chercher et je vous les donnerai précisément. Mais il y a un travail qui est mené effectivement sur ce sujet.
Pour revenir aux attentats du 13 novembre, plusieurs des protagonistes, on le sait très bien, avaient emprunté des voies migratoires pour venir sur notre sol. Comment est-ce que vous pouvez garantir que ça ne se reproduira pas ?
Et d'abord, et pardon de ne pas être dans la démagogie, mais moi je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura plus d'attentats sur notre sol. Et je pense qu'aucun responsable politique sérieux ne peut vous garantir...
Le fait que des protagonistes puissent arriver sur notre sol.
Pardon de le dire, mais à un moment, soyons lucides. De la même manière, aucun responsable politique sérieux ne pourra vous dire « Moi, je vous garantis que personne n'arrivera sur le sol français pour commettre des attentats. »
Par les voies migratoires, c'était la question.
Mais par les voies migratoires non plus, par quelque voie que ce soit. De quoi on parle quand on parle de terrorisme ? On parle de personnes qui sont déterminées à tuer, qui se moquent des conséquences, qui parfois sont prêtes à mourir elles-mêmes en commettant les attentats. C'est le cas d'ailleurs, y compris récemment, dans ce que l'on a pu voir. Mais vous en avez beaucoup qui se radicalisent sur notre sol. Prenez les derniers attentats. Vous avez par exemple ce qui s'est passé pour assassiner et décapiter le professeur Samuel Paty. Et je veux évidemment penser à lui en cette rentrée scolaire. Eh bien, vous aviez là une personne qui s'est radicalisée toute seule. C'est ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère. Une personne qui, seule, devant ses écrans, d'ordinateur, de téléphone, s'est radicalisé à regarder des tutoriels pour apprendre à décapiter, à tuer, et c'est ainsi qu'il est passé à l'acte. C'est ça l'essentiel de la menace terroriste à laquelle nous faisons face.
Et en faisant la différence, évidemment, avec un accueil, je veux dire, la dignité de la France à recevoir des personnes menacées depuis l'Afghanistan, mais l'accueil des réfugiés afghans ne fait pas l'unanimité dans notre pays, dans l'opinion publique. Il y a en France près de 2 600 afghans qui sont arrivés. Comment les communes sont-elles choisies pour les accueillir, pour les répartir ?
Alors d'abord, elles ne sont pas choisies. Il y a un travail partenarial et on a à ce stade environ une vingtaine de communes qui contractualisent avec les préfets. Je me suis rendue par exemple en Sarthe, à Arnage, où 93 personnes venant d'Afghanistan, avec beaucoup d'enfants, sont accueillies. Ça se passe très bien et ce sont des personnes qui ont vocation à être là pendant quelques semaines, quelques mois, le temps d'avoir une réponse parce qu'elles déposent une demande d'asile. Et quand elles ont le statut de réfugiées, eh bien ensuite, elles s'installent. Et je veux souligner le fait que les personnes qui arrivent en ce moment d'Afghanistan ont des profils assez différents par rapport aux réfugiés afghans que nous accueillons en France habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, nous avons 90% des demandes venant d'Afghanistan qui sont des hommes seuls. Là, nous avons près de 50% des personnes que nous accueillons qui sont des femmes, première chose. Deuxième chose, vous avez beaucoup de personnes qui ont travaillé pour l'ambassade française, pour l'armée française ou pour la France. Moi, j'ai rencontré en Sarthe une femme qui était universitaire, polyglotte, qui va d'ores et déjà travailler dans une université. Ce sont des personnes qui, je pense, n'auront pas de difficulté à s'insérer, qui sont pour beaucoup francophiles, pour certaines, parlent français et qui pourront travailler en France.
Mais comprenez-vous néanmoins l'inquiétude d'une bonne partie de l'opinion? L'opinion est divisée autour de cette question. Ce n'est pas seulement la xénophobie ou le racisme ou je ne sais quel sentiment non recommandable qui anime cette inquiétude. Comprenez-vous l'inquiétude de ceux qui disent, malgré tout, il y a de grands risques, non pas seulement des risques terroristes, mais d'intégration culturelle très difficile à amener les réfugiés afghans? Il y en a déjà quelques-uns ici, mais les prochaines vagues?
Et l'intégration culturelle, et vous avez raison d'utiliser ces termes-là, ça ne se décrète pas, ça se construit. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer des personnes? Ben, c'est un travail long qui est mené
On a failli.
Pardon?
Sur l'intégration, on a failli.
Mais là,
c'est pas aujourd'hui qu'on va se dire comment on va intégrer.
D'abord, on a failli pas partout. Regardez autour de la table, on vient d'intégrer un Canadien ou un Québécois. Je crois que c'est, on peut s'en réjouir.
Merci de nous prendre comme exemple. Je ne sais pas si on est de bons exemples.
Sonia Mabrouk.
Et moi, j'ai toujours peur de la politique de montrer quelques-uns et de ne pas voir la réalité.
Alors, moi, je veux bien, on peut parler d'intégration, avoir un débat sur l'intégration, mais soyons un peu précis. Donc, peut-être, dans ces cas-là, commencer par dire que nous avons augmenté le nombre d'heures de cours de français. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage de la langue. Je pense que c'est fondamental. Pour moi, il y a deux choses qui sont des conditions sine qua non pour l'intégration, la langue et le travail.
Je sais pas. En Afghanistan, une partie de la population est pour la charia. Voilà, on en est. C'est cet écart culturel dont on vous parle.
Vous pensez que je ne suis pas au courant?
Non, je sais.
Ça
mais parce que l'apprentissage de la langue, c'est formidable, mais je ne sais pas si c'est le meilleur moteur quand
les
certains partagent telle valeur pour les intégrer.
Mais les personnes qui viennent d'Afghanistan et qui sont des réfugiés politiques, ce ne sont pas les talibans. Enfin, pardon, mais je remets peut-être deux, trois éléments.
Certains dans la population afghane partagent.
Alors, moi, je vais vous dire qui sont les personnes qui sont accueillies en France, puisque nous avons travaillé avec l'ambassadeur David Martinon, dont je salue le courage, ainsi que les équipes, bien évidemment, qui étaient sur place pour savoir qui la France allait faire venir, justement. D'abord, nous avons fait venir des Français qui étaient en Afghanistan ou des gens qui sont franco-afghans et ensuite des personnes qui avaient des nationalités européennes. Parmi les Afghans et les Afghanes, nous avons justement des personnes qui partagent les valeurs de la France, des personnes qui partent pourquoi? Parce que vous avez, je le disais, des femmes universitaires, un cardiologue, une artiste plasticienne, une militante féministe.
Vous êtes en train de dire que c'est l'élite afghane qui est anglophone qui vient en France?
Je ne dis pas que c'est l'élite. Ce que je vous dis, c'est que les gens qui viennent, ce sont les gens qui sont persécutés là-bas. Mmh. Et au regard de la définition constitutionnelle du droit d'asile, ce sont ces combattants de la liberté, comme les a définis le président. Donc les Afghans qui viennent en France ne sont pas nos ennemis. Ce sont justement ceux qui partagent les valeurs de la France et qui veulent fuir la charia et les talibans.
On va continuer à en parler, marquer une pause, rester avec nous. Évidemment, c'est passionnant, ce sont des sujets qui nous concernent tous. Régalien, on a parlé de ce procès à venir. On va parler maintenant de sécurité, d'insécurité avec le déplacement d'Emmanuel Macron qui a fait couler beaucoup d'encre et réagir beaucoup d'opposants. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et merci d'être avec nous en direct à la fois sur Europe 1 et CNews et surtout avec notre invitée en ce dimanche, Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Nous avons parlé tout à l'heure, Marlène Schiappa, de l'expulsion d'étrangers radicalisés. Et c'est Valérie Pécresse qui vous interpellait à travers le journal du dimanche. Vous avez le chiffre précis, je crois.
Donc il y en a 600 qui ont été expulsés, 600 personnes qui étaient donc étrangères et connues pour radicalisation.
Voilà pour la précision.
Donc c'est concret.
J'en viens à présent à ce qui s'est passé cette semaine. Un déplacement fort commenté. Emmanuel Macron a détaillé l'enveloppe et les grandes lignes pour Marseille. Pourquoi Marlène Schiappa, qui a échoué depuis 40 ans à coups de milliards d'argent public dans la politique de la ville, fonctionnerait-il aujourd'hui?
Je pense que ce qui a échoué, en tout cas ce qui n'a pas fonctionné, notamment à Marseille, c'est qu'on a souvent pris la question par le petit bout de la lorgnette. Et je crois que d'ailleurs, ce qui fait échouer un certain nombre de politiques, c'est quand chaque responsable de politique publique dit « mais ça ne me regarde pas, en fait, ça n'est pas mon affaire, la mairie, ça c'est le conseil départemental, le conseil départemental, c'est la région dire c'est l'État, l'État dire c'est la mairie, etc. » Et donc là, il y a eu un plan Marseille pour voir Marseille en grand, comme l'a dit le président.
Il n'y avait jamais eu de plan avant.
Pour Marseille, non. Ça n'était jamais arrivé qu'un président de la République se déplace avec plusieurs ministres pendant plusieurs jours.
Oui, ça c'est la forme, mais le fond, il y a déjà eu un plan.
La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Si le président vient pendant plusieurs jours avec plusieurs ministres, c'est justement parce que chacun d'entre eux ont pu détailler qui pour la sécurité, et on en a parlé, on en reparlera peut-être, qui pour les écoles, pour la question de la rénovation des écoles. On avait quand même des écoles dans un état de vétusté incroyable à Marseille, dont personne n'avait pris la responsabilité. Et je crois qu'il y a eu également un langage de vérité de la part du président sur ce qui pouvait être fait.
Qu'il tient 6 mois avant la fin du quinquennat.
tient toujours. On connaît les liens
entre... Sur Marseille, il aurait pu le faire depuis le début du quinquennat. Certains se demandent pourquoi ce qui n'a pas été fait depuis le début est fait dans les 6 derniers mois.
D'abord, il y a des choses qui ont été faites et les liens entre le président de la République et Marseille sont connus et sont anciens. Et ensuite, nous sommes à 8 mois ou 7 mois de l'élection présidentielle. On ne va pas maintenant rester assis et se tourner les pouces. Il est évident qu'on va utiliser ces 8 mois pour travailler, pour améliorer le pays, comme la raison pour laquelle les Français ont élu le président.
C'est quand même le même président de la République qui, il y a 3 ans, avait rejeté le plan Borloo, qui proposait la même chose.
Mais si vous regardez les mesures du plan Borloo, en fait, l'immense majorité ont été menées par ma collègue ministre chargée de la politique de la ville, Nadia Hay, qui a fait un travail remarquable, qui était
pas
aussi
du tout
à Marseille d'ailleurs.
Pas du tout sur cette échelle, sur l'échelle que proposait Jean-Luc.
Regardez les chiffres,
on a fait ça ce matin
avec le premier ministre Jean Castex. On a travaillé dans certains endroits, notamment à Grigny par exemple, mais dans d'autres endroits, pour justement faire ces comités de suivi sur la politique qui est menée en termes interministériels pour la ville. Et on voit que vous avez à la fois de la prévention de la délinquance, de l'éducation, des éducateurs qui sont déployés, un plan quartier d'été. Je vais vous donner un exemple. On est à la fin de l'été. Cet été, nous avons déployé le plan quartier d'été qui a permis à de nombreux jeunes de travailler à un rapprochement entre la police et la jeunesse dans différents quartiers.
Si je peux me permettre sur cette question, justement, vous parlez d'un langage de vérité dans les circonstances. Le président, si je ne me trompe pas, dit qu'il n'y a aucun quartier où la police, les forces de l'ordre ne peuvent pas entrer. Il est contredit à certains égards par les policiers, souvent, en disant qu'en certains lieu du territoire national, il n'est plus possible d'entrer. Et on a vu cette semaine qu'il y a, sur le territoire français, des checkpoints assurés par des trafiquants, des dealers, qui n'ont pas peur de la force, qui usent, plus encore, j'ajouterais, méprisent même quelquefois les forces de l'ordre en voyant comme une bande rivale et en disant « Vous n'entrez pas ici, ce n'est pas votre territoire, une souveraineté nouvelle s'exerce ici, une frontière intérieure se trace. » Est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas dire qu'il y a des endroits où, finalement, les forces de l'ordre ne se rendent pas en France?
Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a effectivement un affrontement entre, d'un côté, des personnes qui veulent privatiser des endroits, vous l'avez parfaitement bien décrit, et pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire pour avoir le contrôle sur les trafics qui peuvent exister essentiellement, d'une part, et d'autre part, la police, la gendarmerie, qui a pour mission, justement, de rentrer. Et c'est pourquoi Gérald Darmanin donnait comme première priorité la lutte contre le trafic de drogue, avec un mot d'ordre, il faut harceler les points de deal. C'est ce qui a été fait, d'ailleurs, à Marseille, il y a eu de nombreuses amendes, 9000 amendes qui ont été dressées immédiates contre le trafic de drogue. Il y a un harcèlement, bien sûr.
Les trafiquants, ils tremblent. Vous plaisantez, Marlène Schiappa, un point de deal, il met des mois à être démantelé et les policiers vous disent et nous disent que le lendemain, quasiment le surlendemain, il est reconstitué.
Il y a deux choses différentes. Ce que je vous dis, évidemment, ce n'est pas qu'il faut mettre une amende pour quelqu'un qui dirige du crime organisé à Marseille. Pas du tout ça, ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que cette possibilité de mettre des amendes immédiates, elle est saisie et les forces de l'ordre s'en saisissent. Il y en a eu 9000 à Marseille et il y a eu plus de 600 points de deal qui ont été démantelés. C'est un travail de longue date et je veux rendre hommage aux forces de l'ordre qui, tous les jours, vont justement au contact, patiemment, jour après jour, pour démanteler les points de deal qui, souvent, se remontent juste à côté. Et ça veut dire que c'est un travail de Sisyphe que tous les jours, les forces de l'ordre mettent sur le métier.
Le problème, c'est très critiqué à Marseille, cette stratégie, c'est que le volet judiciaire ne suit pas. Vous avez des magistrats qui expliquent qu'on ouvre des informations judiciaires, puis ensuite les affaires ne suivent pas, elles ne sont pas traitées, etc. Donc est-ce que ce n'est pas du côté judiciaire que pêche votre politique?
Non, mais moi je vais vous dire, les policiers, ce qu'ils nous disent quand on va dans les commissariats avec le ministre de l'Intérieur, ils nous disent même que parfois, pour être honnête, ils arrêtent un délinquant et qu'ils vont retrouver le même quelques semaines plus tard.
Mais qu'est-ce que vous répondez dans ce cas-là?
Eh bien justement, c'est une situation dont on hérite, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui existe depuis 2017. Moi, quand j'étais adolescent, je grandis en partie en cité, il y avait déjà ces mêmes problèmes qui existaient dans les années 80.
La désagrégation 80. Du territoire est un problème ancien en France.
Exactement.
C'est pas nous, il y a une décomposition.
Et donc face à ça, d'abord, il y a une action des forces de l'ordre avec une priorité, la priorité absolue, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Et deux, il y a un renfort des moyens de la justice. Il y a eu plus
8%. La justice, c'est le maillon faible.
Il y a eu plus 8% des moyens de la justice l'année dernière. Il y aura de nouveau plus 8 à 10% cette année sur les moyens de la justice, justement pour aller plus vite. Ce qui est important dans une peine, c'est pas tant de la sévérité, c'est la certitude.
Vous parlez des moyens, et c'est une chose essentielle, alors qu'on a une justice malheureusement qui se paupérise, et pas seulement à Marseille, mais nous parlons de l'arsenal judiciaire et législatif. Il est étonnant que le président à Marseille ait parlé de tous les sujets et pas de celui-ci. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un manque et parfois une impuissance de votre part ?
D'abord, sur l'arsenal, on l'a renforcé. Et c'est le président Emmanuel Macron qui, dès 2018-2019, a voulu impulser la création de l'OFAST, qui est une organisation au ministère de l'Intérieur qui a pour mission la spécialité, la lutte contre les trafics de drogue. À la fois le petit trafic de drogue qu'on évoquait, mais aussi le trafic de drogue international qui, hélas, crée des dommages incroyables, notamment sur
les jeunes. Que risque celui qui tient un point de deal ?
Il risque la prison, il risque des amendes.
Combien de fois sur une fois sur combien ? Très sincèrement, Marlène Schiappa, je ne dis pas que c'est la solution.
Il ne semble pas particulièrement terrifié. Hein.
Mais non, et c'est bien tout le problème. En fait, si vous voulez, moi, je veux vous mettre en parallèle trois sujets différents. La question du deal et du trafic de drogue, d'une part. La question du terrorisme qu'on évoquait, d'autre part. Et je vais vous rajouter la question des violences conjugales. Et nous avons un problème similaire sur ces trois sujets qui, en apparence, sont déconnectés. Le problème, c'est que vous avez des gens qui se fichent, en général, de la peine qu'ils vont recevoir. Quand vous avez un homme qui tue sa femme en pleine rue, au su et au vu de tout le monde, croyez-vous qu'il ait peur de finir en prison ? Quand vous avez un terroriste qui commet les actes que nous avons mentionnés, il y va parfois pour mourir, et un trafiquant de drogue, mais aller en prison parfois pour lui...
Donc, allégeons notre arsenal judiciaire ?
C'est absolument pas ce que je dis. Enfin, pardon, mais je suis pas du tout réputée pour vouloir alléger l'arsenal judiciaire. À aucun moment, je dis quoi que ce soit qui peut laisser penser ça. Ce que je dis, au contraire, c'est qu'il y a à la fois un travail de terrain, mais aussi un travail culturel. Et moi, je vais vous dire, quand j'entends des gens dire que consommer de la drogue, c'est fun, c'est cool, que ça peut être rigolo, eh bien, je m'étrangle. Moi, en tant que mère de famille, j'ai une fille adolescente, je ne trouverais pas rigolo que ma fille consomme de la drogue ou qu'elle tombe dans les mains de dealers. Or, vous avez aujourd'hui tout un discours médiatique qui vise à dire que c'est cool, drôle, et ça peut être fun de consommer de la drogue. Mais je blâme pas les journalistes, mais je parle d'un certain nombre. Bah, vous avez quand même régulièrement des débats en télévision ou ailleurs pour dire qu'il faudrait peut-être légaliser le cannabis.
Vous regardez beaucoup la télévision, mais est-ce que vous regardez ce qui se passe dans votre parti ? Parce que parfois, dans la majorité, le débat sur la dépénalisation, la légalisation du cannabis est un vrai sujet.
Mais j'y suis opposée.
Non, mais ça existe aussi dans votre parti.
Quand je dis un débat télévisé qui vient à la télévision, il y a des responsables politiques. Donc je ne suis pas en train de blâmer la télé ou les journalistes. Ce que je vous dis, c'est que, et même parfois dans un certain discours, quand vous regardez des interviews... même parfois d'artistes ou de gens qui banalisent la consommation
de drogue. En parlant
exactement.
de drogues douces,
en parlant des drogues douces, en parlant de drogues récréatives, en utilisant un champ lexical qui amènerait à dire que finalement ce n'est pas si grave. Et en général d'ailleurs, les gens qui tiennent ce discours, ce ne sont pas les gens qui ont des enfants qui risquent d'être attrapés dans le trafic de drogue, de devenir dealer et de finir mort ou en prison. Parce que c'est ça l'avenir d'un dealer. À un moment, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et face à ça, nous avons développé ce qu'on appelle des tapages, des travaux alternatifs payés à la journée, qui permettent à des jeunes, ce qu'on appelle les petits frères, d'être pris avec un accompagnement médico-socio-éducatif et de leur fournir du travail pour qu'ils puissent comprendre
qu'on peut aussi... Alors que sur une journée, je gagne 500 euros en faisant
mais Sonia Mabrouk, pourquoi vous et moi, on n'est pas dealeuses ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? À un moment, il y a des choix qui sont faits. Les choix, ils sont faits parce qu'on montre à ces jeunes qu'il y a d'autres voies possibles et qu'ils ne sont pas obligés de tomber dans le système organisé. Mais ce n'est pas que l'État. Il y a une responsabilité des parents, des familles, de l'éducation. Et souvent, les professeurs mènent un travail difficile et important. Et évidemment, de la proposition alternative qu'on leur offre. C'est pour ça que nous finançons ces tapages qui permettent, avec un accompagnement médico-social, parce qu'il faut les sortir déjà de la consommation, de proposer autre chose et de montrer qu'on peut aussi, dans la légalité, sans risquer de se faire tuer ou de finir en prison, eh bien, avoir un travail qui soit gratifiant, qui vous donne un rôle dans la cité.
Permettez une question un peu périphérique à cela, mais qui n'est pas sans lien. Dans la description des mots qui frappent Marseille, j'ai l'impression qu'une notion a été un peu oubliée. C'est le phénomène de la concentration ethnique, dans certains cas, d'une partition ethnique du territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui est grave à Marseille et peut-être même plus largement en France? Est-ce que la partition ethnique du territoire, est-ce que vous la reconnaissez? Et ensuite, si vous la reconnaissez, que peut-on faire pour lutter contre ces phénomènes qui engendrent des communautarismes, qui engendrent quelquefois une forme de séparatisme aussi?
Bien sûr, mais il y a des formes de ghetto. Il y a des formes de ghetto par origine, comme vous le décrivez, mais aussi... y compris d'un point de vue social. Et ce manque de mixité, il existe et il existe partout sur le territoire. Ma collègue Emmanuelle Vargon, qui est chargée du logement, a pris un certain nombre de mesures pour
faire en sorte... Vous allez nous citer tout le gouvernement, là.
Je suis solidaire.
Tout le monde va être content ce matin.
Écoutez,
si on regarde CNews au report, vous avez oublié personne, je crois.
Je suis une ministre solidaire. Bonne camarade, absolument.
J'ai peur que vous citiez vraiment, et dans le faire, il n'y a pas grand-chose. Parce que vous
Non, il y a énormément de choses qui sont faites, mais à cet égard, c'est la même chose. Je veux dire, ces ghettos, ils ne sont pas arrivés là depuis 2017. Donc on est en train de faire face à une difficulté et à un travail qui se mène pas seulement avec l'État. Vous avez des maires, M-A-I-R-E-S, qui sont fondés à décider comment ils organisent notamment la répartition des logements sociaux. Et vous avez des maires qui ne souhaitent pas avancer vers cette mixité sociale, c'est très clair.
Lesquels ?
Je ne veux pas donner des noms.
Bah, regardez, vous donnez beaucoup de noms de vos camarades, je me dis peut-être. On va marquer une pause, Marlène Schiappa. On va continuer à évoquer ce sujet. Et puis la rentrée des classes, très important, avec une vidéo qui a beaucoup fait réagir, celle du président qui parle de la rentrée des classes, mais aussi dans cette même vidéo qui a évoqué, vous avez rendu hommage à sa mémoire tout à l'heure, à Samuel Paty. Cela a fait beaucoup réagir. Et dans ce contexte, c'est important, on vous en parle. Restez avec nous en direct, bien sûr.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et surtout, notre invité en direct à la fois sur Europe 1 et CNews, c'est Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté. On est très heureux de vous retrouver en direct sur nos antennes à l'occasion de la rentrée des classes, Marlène Schiappa, dans une même vidéo qui a suscité un tollé. Le président de la République a fait référence aux youtubeurs McFly et Carlito et... On avait parlé tout à l'heure à l'horrible assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste. Dans une même vidéo, un président ne devrait pas faire ça.
Hein?
Dans une même vidéo, deux références aussi éloignées avec un choc aussi horrible que celui de l'assassinat de Samuel Paty. Vous pensez que c'est en cohérence avec les youtubeurs sans leur manquer de respect?
Dans une même émission et dans un même temps médiatique, on aborde souvent des sujets très différents, passant du
avec
très
gravité.
Lourd au très léger. Parfois, on aborde aussi des sujets très légers et on pose parfois des questions extrêmement légères. Pour revenir à la vidéo, le président de la République tourne une vidéo pour adresser ses voeux de bonne rentrée aux élèves, aux professeurs, au personnel enseignant éducatif, aux parents. Je trouve ça positif et c'est une vidéo qui est bien reçue. Et dans cette vidéo, bien sûr, il rend hommage au professeur Samuel Paty. Je crois qu'il était dans nos mémoires à tous et à toutes au moment de cette rentrée. Et il adresse également des messages plus légers, sous des formes donc plus légères,
rien
notamment
vous a choqué,
contre les gestes barrières, avec évidemment cette référence à McFly et Carlito. Mais la vie, elle est ainsi faite, Sonia Mabrouk, vous le savez très bien. Il y a des choses graves, des choses difficiles, et c'est le président de la République qui a dû faire face à cet attentat. Nous, le soir où Samuel Paty a été décapité, nous nous sommes immédiatement, avec le président de la République, rendus sur place. Nous avons fait face aux policiers qui étaient intervenus, à la principale de ce collège.
On n'oublie pas que ça a touché tout le monde, y compris le président et vous-même. On s'interroge sur une même vidéo. Est-ce qu'il ne fallait pas sanctuariser quand même un hommage à ce professeur en la rentrée des classes et dissocier ce qui est quand même
d'abord, on n'est pas là dans le « ça l'a touché ». L'assassinat terroriste contre le professeur Samuel Paty, je ne vous dis pas « ça nous a touché ». Je vous dis que nous étions aux manettes, justement, à la cellule interministérielle de crise avec... les forces de l'ordre, avec toutes les personnes qui ont été mobilisées. Et nous avons regardé les yeux dans les yeux, le policier qui a tiré, la principale de ce collège. Et ensuite, le président de la République a été aux manettes pour prendre les mesures, y compris de sécurité, pour le pays qui s'imposait. Mais que le président de la République ne soit pas que uniquement tout le temps dans la gravité, mais qu'il incarne aussi cette résilience qu'on appelle de nos voeux, je trouve ça positif. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on ne doit s'arrêter que sur le grave. On peut aussi passer des messages, parfois avec un clin d'œil ou avec légèreté. C'est ce qu'a fait le président.
Emmanuel Macron annonçait à Marseille notamment des mesures d'expérimentation pédagogique, pour reprendre la formule, notamment pour lutter contre l'absentéisme de certains professeurs et ainsi de suite. Question toute simple que vous me permettrez. Comment expliquez-vous en fait le fait que des professeurs finalement semblent découragés d'aller enseigner en certains quartiers, en certains lieux? Comprenez-vous leur découragement? Et est-ce que vous croyez que ces expérimentations dénoncées par certains syndicats qui trouvent ça un peu hors sol, est-ce que vous trouvez que ces expérimentations, c'est la réponse nécessaire, suffisante pour lutter contre cet absentéisme?
Le professeur, c'est un métier extraordinairement difficile.
En certains lieux plutôt que d'autres, peut-être?
Je pense que de façon générale, professeur, c'est un métier difficile avec des enjeux forts. Et moi, je suis fille, petite fille et sœur de professeur. Tout le monde dans ma famille est dans l'enseignement. À part moi, c'est un métier que je connais très bien et de très près. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un métier dur. Parfois, on a tendance à dénigrer le métier de professeur. J'entends souvent des gens dire que c'est facile, ce sont des gens toujours en vacances, etc. Je dis dans ces cas-là, c'est un métier qui... je ne dis pas que vous le disiez. Je dis que très souvent, on entend dire les profs de quoi se plaignent-ils, ils sont toujours en vacances.
Mais
dans ces cas-là, je dis que le concours est ouvert. Et ceux qui trouvent que c'est un métier facile dans lequel on est toujours en vacances n'ont qu'à postuler et devenir eux-mêmes professeurs.
Mais
bien sûr que je comprends l'épuisement. Vous savez, l'angine, l'extinction de voix, on dit que c'est la maladie du professeur, à force de devoir parler et à force parfois de devoir faire de la discipline. Quand on est professeur d'histoire ou d'art plastique et qu'on passe son temps à dire machin, retourne-toi, toi pourquoi t'es pas là, arrête de lancer des trucs sur ta collègue,
c'est le chef de l'État.
Évidemment,
là.
C'est très compliqué.
La solution, Marlène Schiappa, pour améliorer la qualité de l'école, ce serait aussi de permettre aux directeurs de choisir leurs enseignants, notamment dans certaines écoles difficiles où le directeur pourrait effectivement choisir des enseignants plus motivés.
Pourquoi pas ? La question, je crois que dans cette expérimentation qu'a proposé le président de la République, moi, ce n'est pas tant le choix, c'est-à-dire c'est pas tant le directeur ou la directrice qui va aller choisir. Première chose et peut-être première nouveauté, comme vous le savez, le directeur ou la directrice de l'école n'a pas de lien hiérarchique sur les enseignants qui sont dans l'école. Donc là, c'est une nouveauté, une manière aussi de renforcer le rôle de direction, justement, comme son nom l'indique,
de ce poste-là. Alors, les syndicats sont vent debout là-dessus ?
C'est une expérimentation. Moi, je pense qu'il y a des choses qui méritent
d'être essayées. Et appel à généraliser. On ne va pas se lancer dans des expérimentations par plaisir.
Non, l'expérimentation, elle n'a pas vocation forcément à être généralisée. Elle a vocation à être étudiée, à voir ce que ça donne. Est-ce que oui ou non, c'est efficace ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Est-ce qu'il y a un bénéfice sur l'apprentissage des élèves ? Et peut-être être fondée aussi sur le volontariat. On a parfois des enseignants qui sont volontaires. Je pense par exemple à Yanis Roder, que vous connaissez peut-être, qui est un enseignant qui, par choix, reste dans des quartiers difficiles, reste en Saint-Denis.
À chaque fois, vous prenez des exemples précis. Vous avez raison, c'est comme ça qu'on incarne.
J'illustre mon propos.
Oui, mais le chef de l'État, pour rentrer dans le vif du débat, semble insinuer quand même que les enseignants dans les quartiers les plus difficiles ne viendraient plus ou ne veulent plus venir en classe. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui qu'il faut dire, qu'il faut énoncer sans tabou ?
Je ne vais pas faire de généralité en disant les enseignants. Et Jean-Michel Blanquer fait un travail important là-dessus. Mais c'est vrai que quand vous êtes un ou une jeune, que vous venez de sortir de l'école, que vous avez peut-être 24 ou 25 ans et qu'on vous affecte alors que vous n'avez pas d'expérience immédiatement dans un quartier difficile, où vous êtes jeune et vous avez en face de vous des élèves qui font votre taille, évidemment c'est difficile. Et moi je ne vais pas aller dire aux profs, mais allez faites un petit effort et allez-y. Je ne veux pas nier les difficultés qui existent quand on est enseignant dans des quartiers difficiles.
Mais par les difficultés évoquées, vous parliez tantôt l'extinction de voies possibles. Bon, peut-être, mais sur le fond des choses, est-ce que ce n'est pas le manque de respect pour les professeurs quelquefois ? Le fait qu'ils soient en danger, en bien des circonstances, qu'ils savent qu'en se présentant devant leur classe, ils n'auront pas droit au respect minimal qui devrait être dû à un professeur dans sa classe. Est-ce que ça explique pas peut-être aussi en certains quartiers difficile, l'absentéisme ?
Complètement, je suis évidemment d'accord avec vous. Et je pense que ce que vous dites là aussi fait écho au précédent sujet que nous avons évoqué. Et je pense qu'il y a un enjeu fondamental du temps qui est devant nous, c'est la question du respect des règles. C'est la question, c'est une question vraiment quasiment de civilisation et de comment nous voulons organiser la société. C'est un, quelles règles collectives souhaitons-nous nous donner ? Et deux, comment décidons-nous de respecter ces règles ? Vous avez des pays dans le monde dans lesquels il y a des règles collectives et tacitement, on respecte ces règles.
Mais pourquoi dans certains pays ? Est-ce que parce qu'il n'y a pas une autorité naturelle et un respect vis-à-vis du professeur que nous n'avons plus malheureusement en France ? Et je ne généralise pas.
Je pense qu'il y a une question d'abord culturelle et ensuite je pense qu'il y a une question d'acceptation. Et là aussi, je suis désolée, mais il y a un travail à mener dans les familles. Quand dans les familles on dit sans cesse aux enfants que le prof c'est pas grave, l'école c'est pas important, etc., évidemment les enfants en gardent quelque chose. Donc, je crois qu'il est urgent de restaurer l'autorité du professeur et surtout le respect des règles.
Vous savez qu'en Chine par exemple, les meilleurs professeurs sont envoyés dans les écoles les plus difficiles. Alors la Chine n'est pas forcément un modèle absolu, mais enfin c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est la transformation de la fonction publique qui est en train d'être menée, attention je vais encore citer une collègue femme du gouvernement, par ma collègue Amélie de Montchalin, qui fait en sorte justement que les hauts fonctionnaires qui sortent de l'école et qui sont les meilleurs puissent aller dans les endroits où c'est difficile, où il y a des enjeux.
Parce que effectivement, les meilleurs, c'est en fonction de quoi ?
Du classement, en fait, il y a un classement. Quand vous sortez de hautes écoles d'administration, il y a un classement.
Parce que moi, je me demande les meilleurs, comment ils font quand il s'agit de parler de laïcité ? Est-ce que c'est en fonction d'un classement qu'on est meilleur quand on parle de laïcité ?
Vous êtes taquine.
Où je veux en venir ? Non, pas du tout. Ouais. Le gouvernement a lancé, Marlène Schiappa, une campagne pour la laïcité à l'école. Elle a été dévoilée par le ministre de l'Éducation et ses affiches ont entraîné vraiment une vive polémique. Alors, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et sur l'un des 8 panneaux, on va le voir, je vais le décrire aussi sur Europe 1 à la radio, un petit garçon blanc est par exemple représenté aux côtés d'une petite fille métisse, tous deux dans l'eau et accrochés à un rebord de piscine. Il est écrit « Permettre à Sacha et Naïssa d'être dans le même bain, c'est ça la laïcité », indique le slogan. « Tollé, on vous reproche en fait de mélanger couleur de peau, religion et origine supposée ».
Oui, on peut avoir le débat. Moi, d'abord, première chose, je voudrais vous dire que dans le cadre du projet de loi confortant les principes républicains, il y aura maintenant, tous les 9 décembre, une journée nationale officielle dédiée à la laïcité. Et donc, à cette occasion...
Dédiée à la laïcité.
Exactement, à l'occasion de l'anniversaire de la loi de 1905. Et donc, à cette occasion, celles et ceux qui voudront produire leurs propres affiches ou leurs propres campagnes pourront évidemment le faire. Dans cette campagne, je ne suis pas à l'origine, je n'ai pas fait cette campagne, mais
Vous vous en éloignez alors ?
Non, pas du tout. Je le dis pour information. Je ne m'en éloigne pas. Je soutiens mon collègue Jean-Michel Blanquer qui mène un travail courageux sur les questions de laïcité, notamment en ayant créé le Conseil des Sages, en ayant permis de remettre au devant de la scène cette question. Vous savez que nous allons pour la première fois créer un bureau de la laïcité qui sera rattaché au ministère de l'Intérieur, que nous allons inaugurer dans quelques semaines et qui aura vocation justement à être un support, y compris un support de travail, y compris pour les autres ministères sur la question de la laïcité.
Un bureau, en quoi ça peut aider un professeur dans une classe qui est soumis à un enseignement et un enseignement aussi compliqué justement à mettre en œuvre?
Alors d'abord,
il va être content qu'il y ait un bureau.
D'abord, là, c'est un bureau de la laïcité au ministère de l'Intérieur. Et quand on dit un bureau, ça veut dire que ce sont des personnes, des hauts fonctionnaires et des experts de ce sujet qui y travaillent. Ce n'est pas un bureau tout seul. Il y a dans ces cas-là une équipe qui travaille sur ces sujets. Sur l'éducation nationale a ses propres référents laïcité. Et je pense que dans cette campagne, l'idée,
elle
c'était d'illustrer...
Elle vous interpelle, j'en suis sûre.
Non, très simple.
Vous qui avez une définition
non,
assez précise de la laïcité.
Honnêtement, je vais vous dire, ce qui m'interpelle, c'est que maintenant, dès qu'on met le mot laïcité quelque part, vous pouvez être sûr que c'est explosif et qu'il y a un débat, une polémique, des pour, des contre, etc.
Mais du coup, vous êtes
dans
un peu
cette
d'accord
campagne,
avec Sud quand Sud dit que vous avez une vision xénophobe de la laïcité?
Je suis évidemment
que
pas d'accord avec...
Que ça donne une vision xénophobe, cette
affiche? Mais pas du
affiche.
Tout. Écoutez, qu'est-ce que cette affiche essaye de passer comme message? Que l'école, c'est un espace de respiration républicaine, pour reprendre l'expression de la philosophe Catherine Kinsler. Et qu'à l'école, on ne vous demande pas d'où vous venez. Et c'est valable grâce à la laïcité, mais c'est valable parce que c'est l'école républicaine. On ne s'occupe pas de savoir si vos parents sont riches ou pauvres, si vos parents sont musulmans, catholiques, athées, si vous-même vous l'êtes ou pas. Et vous êtes accueillis ici comme
vous
des petits futurs
mais
citoyens
Marine,
en construction
encore une fois,
indifféremment.
Cette affiche-là, vous avez pris la diversité ethnique comme signe possible de diversité religieuse. Moi, c'est ce que je vois.
Mais encore une fois, pardon, vous m'interpellez, je ne suis pas l'agence qui a réalisé cette campagne que j'ai découverte comme chacun. Non, ce que je dis, c'est que j'essaye de remettre quel est le message qui a voulu être passé. Et j'invite chacun à s'en saisir pour le 9 décembre et à produire ses propres affiches pour qu'on puisse en débattre. Mais dernière chose, sur cette campagne que je me retrouve à défendre, même si je n'en suis pas à l'origine, mais sur cette campagne, ce que je veux dire, c'est que le message, c'est aussi ce que la laïcité permet. Parce qu'on parle souvent de ce que la laïcité interdit ou de ce que la laïcité empêche. La laïcité, c'est avant tout un principe de liberté. Et la laïcité, elle permet de partager un même espace. Et c'est vrai qu'il est difficile de représenter la religion réelle ou supposée de tel ou tel enfant sur une affiche.
On va continuer à en parler, évoquer aussi ce qui se passe sur la scène politique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un foisonnement de candidats déclarés ou à venir.
On s'ennuie pas.
On s'ennuie pas, comme vous le dites. Vous allez nous dire celui ou celle qui vous ennuie le plus ou le moins, peut-être. À tout de suite sur Europe 1 et CNews en direct.
Europe 1. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et en ce dimanche, c'est Marlène Schiappa qui est notre invitée. Dans quelques instants, nous parlerons des candidatures déjà annoncées hier. Arnaud Montebourg peut-être à venir avec Éric Zemmour. Mais tout d'abord, un sujet, un dossier que vous portez, Marlène Schiappa. Nous sommes 2 ans après le lancement du Grenelle des violences conjugales. Vous avez certes augmenté les places d'hébergement, déployé des bracelets anti-rapprochement, mais les féminicides survenus à Mérignac ou encore à Hayange en janvier dernier rappellent évidemment que le chemin est encore long. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Est-ce qu'il y a une mesure urgente là que vous pourriez nous annoncer pour qu'il y ait un sursaut dans notre pays?
D'abord, évidemment, je vais avoir une pensée pour les victimes de féminicides. Et chaque féminicide, même s'il y en a eu moins en 2020, il y a eu une baisse. Mais chaque féminicide est bien sûr un féminicide de trop. Et donc, dans la prolongation de ce Grenelle des violences conjugales qui avait été lancé par le Premier ministre Édouard Philippe, et qui est poursuivi par Jean Castex avec beaucoup de volontaristes. Nous étions ensemble la vendredi pour faire le point justement sur l'avancée de ces mesures. Lundi, j'organise une conférence inversée au ministère de l'Intérieur. Une conférence inversée parce que vous aurez dans la salle des policiers, des gendarmes, des membres des forces de l'ordre et des directeurs du ministère de l'Intérieur qui vont écouter. Et celles qui vont parler, ce sont les victimes et les proches de victimes de violences conjugales. Monsieur et Madame Fouillot, les parents d'Alexia Daval, Alexia Fouillot, ont très gentiment accepté de venir pour partager leur expérience avec les forces de l'ordre. Valérie Bacot également sera présente, Laura Rapp, Tatiana Laurence Delarue, des victimes de violences conjugales qui vont échanger et dialoguer avec des forces de l'ordre. Parce que nous sommes dans le même camp.
C'est essentiel de les écouter. Mais
exactement.
Que vont-elles vous dire que vous ne sachiez déjà? Et que d'abord, vous auriez dû entreprendre plus, hein, si on peut dire.
Alors d'abord, moi pardon, mais je suis quand même la personne qui a mis le sujet des violences conjugales sur le devant de la scène. Ça n'était pas précédemment un sujet politique. En 2017, avec le président de la République à l'Élysée, le président a ordonné une minute de silence en hommage aux femmes tuées par leurs conjoints. C'est inédit partout dans le monde et c'est le premier pas qui a amené au Grenelle des violences conjugales deux lois, deux lois, 150 mesures. On n'est pas dans le symbolique. Non, mais on n'est pas dans le symbolique, pardon, Sonia Mabrouk. Deux lois avec la saisie des armes automatiques dès qu'il y a maintenant un dépôt de plainte, une grille d'évaluation du danger pour l'évaluer, une plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les forces de l'ordre. Maintenant, nous formons systématiquement les policiers et les gendarmes, 100%. Tous ceux qui sortent des écoles sont formés. Et là, l'idée pour moi, c'est un, d'abord rappeler que nous sommes dans le même camp. Les policiers et les gendarmes, ce sont eux qui se mettent entre la balle et la femme. Il y a 400 interventions par semaine lors desquelles ils sauvent la vie des femmes et des enfants. Et ensuite, c'est poursuivre cette formation des policiers et des gendarmes. Elle ne doit pas se faire uniquement théoriquement, mais aussi pour avoir l'empathie, la compréhension nécessaire en écoutant ce que les femmes et leurs familles ont à nous dire.
Avec ceux que vous avez cités.
Exactement. Et, à cette occasion, à cette occasion, je nommerai, avec Gérald Darmanin, nous nommerons 3 responsables violences intrafamiliales rattachés aux 3 hauts directeurs du ministère de l'Intérieur, police nationale, gendarmerie nationale et préfecture, qui seront chargés tout au long de l'année de maintenir ce dossier en haut des priorités.
Marlène Schiappa, cette semaine sur Europe 1, Sandrine Rousseau, qui est candidate à la primaire écologiste, a réagi à la situation des femmes afghanes. Elle dénonce la burqa en Afghanistan et semble s'en accommoder en France sur la question du voile et du burkini dans les piscines. On l'écoute.
Je pense qu'en France, l'émancipation des femmes ne passe jamais par une interdiction du vêtement.
Donc
je pense que stigmatiser les femmes au titre des vêtements qu'elles portent, c'est précisément ce qui fait que les femmes ont été stigmatisées durant toute l'histoire des femmes de notre pays.
Ça vous choque cette posture à géométrie variable ?
Bien sûr, ça me choque. D'abord, c'est profondément illogique dans le raisonnement. Donc je pense que ça choque toute personne qui écoute et qui a un peu de logique. Et ensuite, on est là dans une inversion de ce qu'est le droit et une inversion de ce qu'est la liberté. C'est la même chose quand on a eu les débats pour interdire le certificat de virginité, où certaines personnes, notamment proches de Sandrine Rousseau, nous disaient « il ne faut pas l'interdire parce qu'après tout, ce serait une forme de droit que de se faire faire un certificat de virginité ». Et là, on nous parle de liberté en inversant complètement le sens de la liberté. Moi, j'ai beaucoup de respect, d'admiration et d'humilité face aux femmes afghanes courageuses qui ont manifesté encore hier face à des talibans armées. Ce sont ces femmes-là qui sont courageuses et inspirantes et qui sont des vraies féministes.
Marlène Schiappa, j'aimerais vous relancer sur un point de convergence inattendu entre vous et Sandrine Rousseau. Votre commune passion des sorcières. Alors, on sait que Sandrine Rousseau préfère les sorcières aux ingénieurs à certains égards. Elle se permet même de jeter des sorts, peut-être. Comment expliquez-vous cette passion que vous avez aussi pour les sorcières ? Pardonnez ce point d'interrogation, je me questionne vraiment.
D'abord, première chose, peut-être rappeler d'où cette passion qu'on me prête vient. Premièrement, vous savez qu'il y a une histoire des femmes qui ont été brûlées pour sorcellerie, notamment au Moyen-Âge, et c'est dans ce cadre que j'ai co-signé une tribune avec beaucoup de femmes et d'artistes, et Charlotte Gainsbourg et d'autres. Il y avait, je crois, aussi Sandrine Rousseau, pour dire qu'il fallait réhabiliter ces femmes que l'on avait brûlées en les blâmant pour sorcellerie. C'est un enjeu féministe que de dire que souvent, on blâme les femmes pour sorcellerie quand on ne les comprend pas. C'est la même chose avec l'hystérie. Quand on disait cette femme est hystérique parce qu'on ne comprend pas ou parce que cette femme sort des carcans habituels et qu'elle souhaite prendre la parole. Ensuite, je vais vous dire, moi, je n'oppose pas les femmes et le progrès. J'étais très choquée d'un certain nombre de déclarations de Sandrine Rousseau. D'abord, je veux qu'elle avait menacé Sonia Mabrouk de lui jeter un sort à la fin d'une interview. Je pense que c'était de l'humour. Jusqu'ici, tout va bien. Et j'ai vu dans une interview qu'elle opposait d'un côté des femmes qui jetteraient des sorts et de l'autre côté des hommes
qui seraient ingénieurs.
Exactement, qui seraient ingénieurs. Mais en cela, pardon de le dire, mais Sandrine Rousseau rejoint Éric Zemmour. Elle le rejoint, mais bien sûr, Sandrine Rousseau.
Là, c'est la fameuse tenaille, là, c'est un grand écart.
C'est exactement ça, mais pas du tout. Regardez, en fait, Sandrine Rousseau comme Éric Zemmour. Analysez leur discours sur les hommes et sur les femmes et sur les rapports entre les hommes et les femmes. Tous les deux font la même analyse, l'analyse selon laquelle les hommes seraient pétris d'idéologies virilistes et seraient pris par des pulsions sexuelles auxquelles ils ne pourraient pas résister. Éric Zemmour pour le revendiquer, d'une part, c'est ce qu'il dit dans son livre Le Premier Sexe. Sandrine Rousseau pour le déplorer, d'autre part.
Sandrine Rousseau et Éric Zemmour, même combat, sur ce point, il fallait
le faire. Écoutez, ils font la même analyse stéréotypée des rôles entre les femmes et les hommes. Et de longue date, il y avait un combat dans le mouvement féministe entre l'essentialisme, qui vise à dire les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, et l'existentialisme, porté notamment par Elisabeth Badinter, Simone de Beauvoir et d'autres, qui visait à dire nous pouvons sortir de ces stéréotypes. Et il y a des nuances. Il y a des hommes qui aiment pleurer et le jardinage, et des femmes qui aiment la guerre et la politique.
Quand Sandrine Rousseau fait l'éloge des sorcières en les opposant aux ingénieurs, elle délire.
Et je pense que ça ne rend pas service aux femmes, si vous voulez, parce que où sont les femmes ingénieures là-dedans ? Où est Marie Curie ? Où sont les femmes scientifiques ? Et moi, je crois que le féminisme, c'est aussi dire aux femmes, eh bien, vous n'êtes pas assignées à quelque chose, vous n'êtes pas assignées à une forme de victimisation, vous n'êtes pas assignées au rôle de la petite chose fragile et opposée à l'homme scientifique sachant. Moi, c'est ça ma vision du féminisme. Et après, je ne veux pas blâmer Sandrine Rousseau, je ne me suis jamais exprimée sur ce qu'elle disait.
Bah là, c'est
on vous en donne l'occasion.
Mais je vous réponds sur le fond, je ne réponds pas sur la personne.
J'ai un désaccord. À Éric Zemmour, dont vous avez dit qu'il se radicalise, c'est un mot quand même qui n'est pas anodin par rapport au sujet que nous avons employé tout à l'heure. Vous maintenez qu'il y a une radicalisation d'Éric Zemmour aujourd'hui ?
Bien sûr, mais plus on approche de sa potentielle candidature,
elle ne fait pas de doute pour vous ?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour a commencé en étant un intellectuel, un écrivain, un éditorialiste. Aujourd'hui, il fait dire qu'il serait candidat. On ne sait pas bien exactement où il est. Je crois qu'il a toujours une émission, d'ailleurs, alors qu'il prépare, dit-il, une candidature à l'élection présidentielle. Et ça oui, j'observe.
Mais on a le droit de changer de vie, non ? Ou alors c'est interdit.
Chacun fait ce que. Eh ben, donnez-moi une émission de télévision dans ces cas-là, à la même heure
que vous. Puisqu'on peut être responsable politique et avoir.
Ce que je comprends, vous dites qu'il se radicalise parce qu'il se lance en politique. Vous êtes radicalisé quand vous êtes lancé en politique ?
C'est pas du tout ce que je dis. Attention, ce que je dis. Alors, la raison profonde, elle lui appartient, c'est à lui de le dire. Mais ce que j'observe, c'est que Éric Zemmour est maintenant dans des propos de plus en plus extrémistes lorsqu'il prend la parole. Là, sur les Afghans, vous avez quand même entendu... Pardon, attendez, vous avez entendu ce qu'a dit Éric Zemmour sur les Afghans. C'est-à-dire des gens qui sont persécutés par les talibans, qui ont travaillé pour l'armée française, et il dit « on ne leur doit rien, on ne leur doit rien, on n'a pas besoin de les faire venir ». Moi, ça me choque. Ça me choque profondément. Je pense qu'il y a là un manque d'humanité. Je ne suis même pas sûre qu'il le pense. Mais je pense qu'il dit ça pour choquer le chaland, pour choquer le bourgeois, pour se radicaliser, d'accord, pour montrer qu'il est plus à droite que Marine Le Pen. Mais voilà sa stratégie.
C'est pas un allié objectif aussi d'Emmanuel Macron ? Parce qu'on voit bien que s'il se présente, il prend des voix sur ses concurrents.
Non, je crois pas. D'abord, dans les dernières études...
Si Zemmour y va, Emmanuel Macron lui dit merci.
Pas du tout. D'abord, regardez... D'abord, je ne suis pas Emmanuel Macron. C'est à lui qu'il faudra poser la question. Ensuite, regardez dans la dernière étude. Éric Zemmour, il prend 2 à 3 points seulement à Marine Le Pen. 2 à 3 points
Parfois
seulement.
Ça peut suffire.
On ne sait pas. Et ensuite, il peut lui faire une réserve de voix pour le deuxième tour, ce que Marine Le Pen n'a jamais eu jusqu'à présent. Donc l'extrême droite se tient par les coudes et nous savons très bien qu'au deuxième tour, dans tous les cas, ils se retrouveront. Par ailleurs, je voudrais dire que ça n'élève pas le débat public, si vous me le permettez. Vous avez parlé d'Arnaud Montebourg, vous avez parlé de Yannick Jadot.
Un mot sur lui ?
Mais évidemment, moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même dans cette campagne aussi des gens qui disent des choses intéressantes. Moi, je trouve que dans ce que dit Arnaud Montebourg, il y a des choses intéressantes. Dans ce que dit Yannick Jadot sur la laïcité, il y a des choses intéressantes. Yannick Jadot, il est dans le camp républicain. On peut débattre, on peut dialoguer avec lui. Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, a fait des interviews intéressantes sur la sécurité, sur la laïcité, sur la vaccination,
tout
sur les inégalités sociales.
Zemmour,
est-ce qu'il dit des choses intéressantes, Zemmour, aussi ?
Moi, je ne trouve pas. Mais vous avez rappelé que j'étais une femme de gauche. On a chacun nos petits défauts.
Vous avez débattu avec lui.
Mais je peux débattre avec les gens avec qui je suis en désaccord. Je crois à la démocratie. Et je pense que tout le monde est légitime pour se présenter. Je ne fais pas partie des gens qui interdisent à qui que ce soit l'accès à la vie politique.
C'était le grand rendez-vous Europe 1 CNews en partenariat avec les Échos de Marlène Schiappa. Merci à vous.
Merci
d'avoir été notre invité. Merci.
Avec plaisir.
Avec Nicolas Barré et Mathieu Bocoté. Restez avec nous à la fois sur Europe 1 et CNews. Très belle journée à vous et bon dimanche. Et à dimanche prochain, bien sûr. Europe 1.